mort au rat. Les boulettes empoisonnées, signé Rongemaille. Shoei gravit cette montagne depuis des jours. Il a l'impression que cela ne finira jamais, mais il continue son ascension comme si ses pieds ne lui faisaient plus mal du tout, et qu'il ne sentait pas que les lanières de son sac à dos lui lacéraient les épaules jusqu'au sang. Il ne fait même plus attention aux moustiques qui lui dévorent la figure. La nuit dernière, il s'est même effondré sans sortir la moustiquaire. Il ressemble à une pastèque trop mûre. Il a jeté ses sandales et enrobé ses pieds de tissu. Shoei n'en peut plus. Mais tant qu'il entendra le bruit assourdissant du torrent, lui a-t-on ordonné, il fallait qu'il continue à marcher, sans quoi il ne la trouverait jamais. À la fin de cette journée horrible, où il a songé au moins 3 fois à sauter dans le ravin, alors que le soleil finit de s'éteindre derrière la cime des pins, il se retrouve, sans trop y croire, au milieu d'une clairière telle qu'on lui avait décrite. Une prairie dégagée à perte de vue, quelques buffles passent en toute quiétude. Une rizière en contrebas, et au milieu de ce paysage de coucher de soleil, une cabane sur pilotis, la plus humble et la plus rustique qui soit, dont la cheminée laisse deviner une présence humaine. Éreinté, Shoei laisse tomber son sac dans l'herbe et continue d'avancer. Il n'entend plus le bruit du torrent. Il titube en souriant, grimpe les 3 marches, et sa main n'a pas touché la porte qu'il s'écroule, inconscient. Nous sommes dans la partie nord de la province de Niigata. Il n'y a rien ici. Les bûcherons n'y montent pas, les conditions de travail sont trop infernales. Les arbres meurent de vieillesse en toute simplicité. Les crues et les tempêtes font le reste. Des aventuriers, des chasseurs ou des fous s'y installent parfois et meurent de paludisme, de froid, d'empoisonnement par des baies confondues avec d'autres, d'attaques d'ours, de noyades, de piqûres de serpents ou de tarentules. Dans la montée, on aperçoit quelques ruines de ces cabanes de fortune bouffées par l'humidité, la mousse et la pourriture. Puis, elles disparaissent. Shoei se réveille, reposé. Il n'est ni perclus de courbatures, comme il le redoutait, ni fiévreux. Ses vêtements sont suspendus au-dessus d'un poêle sur lequel crépite une soupe aux riz et aux œufs et qu'une odeur paradisiaque de petit pain lui chatouille le nez. Elle est là, assise en tailleur, près d'une table basse dressée en son honneur. Des écrevisses frites épicées, des cuisses de grenouille à l'ail sauvage, un bouillon de serpent aux herbes. Il n'arrive pas à la quitter des yeux quand il mange, goulûment ses plats merveilleux. Il avait faim, il était sale, il était seul. Comme son regard s'attache aux plis soyeux de sa nudité, découverte, Shoei s'aperçoit qu'il est complètement nu, lui aussi, et qu'elle observe sa queue en buvant sa soupe par petites gorgées. Sa queue qui se dresse et palpite sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Quand elle repousse la table d'un geste brusque, il se penche en arrière et la regarde qui l'enfourche avec ferveur, langue abrupte, puis lui grimpe dessus. Un long filet lui coule derrière les cuisses et sous les fesses. Il entend le bruit du ruisseau, à nouveau, puis le fracas du torrent qui gronde. Shoei est en extase face à cette beauté qui maintenant hurle son nom. Ça lui rentre par vagues dans les yeux et dans la bouche. Il n'y voit plus rien, ne respire plus. Comprend soudain qu'il ne jouira jamais, qu'il se noiera avant. Shoei respire l'eau salée un grand coup, s'agrippe à la croupe ondoyante. Le sourire qu'elle lui adresse entoure de ses cheveux noirs flottant autour de son visage. Cette main douce qui caresse sa joue dans le courant, tout cela vaut bien 1000 morts.